tu parles, c'est le même mot. Donc Paul, plein de zèle, prend l'initiative d'aller arrêter les chrétiens dans la communauté juive de Damas, à 250 km de là quand même. Hein. C'est pas pour rigoler, quoi. Hein. Donc il a dû en recevoir des nouvelles bien alarmantes pour se lancer dans un tel projet. On peut vraiment dire qu'il avait déjà une âme de missionnaire. Le début du passage nous dit, donc dans la version seconde, ça dit « il respirait la menace et le meurtre hein, ». Il aurait voulu les tuer, les chrétiens, vraiment, quoi. C'était insupportable des gens pareils. Mais comme il était aussi très respectueux de la loi, son projet ne consistait pas à aller massacrer les chrétiens chez eux, mais seulement à les arracher à leur foyer pour les amener à Jérusalem, afin d'y être jugés par le Grand Conseil, car c'était le seul tribunal habilité à juger des affaires de cette gravité. Alors on peut s'étonner qu'un tel pouvoir soit accordé aux autorités religieuses au sein de l'Empire romain, ce qui a amené certains théologiens à mettre en doute la véracité de ce récit. Mais le fait est que les Romains admettaient l'extradition pour motifs religieux et laissaient une relative liberté aux diverses religions qui se côtoyaient dans l'Empire romain. Mais donc, ils n'avaient pas le droit de tuer. Hein. On voit dans l'histoire de Jésus aussi, les Juifs n'avaient pas le droit de mettre Jésus à mort, il fallait que ce soit les Romains qui le fassent. Mais voilà, alors que Saul approche de Damas pour mettre son funeste projet à exécution, un événement totalement inattendu survient. Une lumière éclatante jette Paul à terre, le rendant aveugle. Et une voix inconnue s'adresse à lui. C'est Jésus qui se présente à Paul de manière très brutale. Le court dialogue qui nous est rapporté montre que Jésus s'identifie à ses disciples persécutés. Il ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu mes disciples ?» mais bien « Pourquoi me persécutes-tu ?» Donc, si l'on pense aujourd'hui à ce que vivent nombre de chrétiens à travers le monde, on peut dire que Jésus est grandement persécuté sur la terre. Dans l'Ancien Testament, il y a un moment comme ça où Samuel est désolé parce que le peuple ne veut pas écouter Dieu et qu'il réclame un roi. Et Dieu lui dit « Mais ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, pour que je ne règne pas sur eux. » Donc quand nous, en tant que croyants, on est rejetés, on est soumis à des brimades de la part des autres, il faut savoir que ce n'est pas nous, c'est vraiment Dieu qui est visé à travers ça, c'est Jésus. Donc Dieu n'abandonne pas ses prophètes, il fait cause commune avec le peuple de ses fidèles. Donc c'est à la fois un avertissement pour ceux qui méprisent les chrétiens et les maltraitent, et un encouragement pour les croyants qui souffrent pour leur foi. Jésus souffre avec eux. Jésus donne aussitôt à Saul des instructions pour la suite de son voyage. Il ne l'abandonne pas, il le rassure. Saul va vivre 3 jours dans la cécité sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Quelle angoisse, quelle insécurité. Lui qui était si sûr de lui a besoin maintenant qu'on le prenne par la main, comme un enfant, pour le conduire à destination. Lui qui se prenait pour le champion de Dieu, qui croyait avoir tout compris, il est jeté dans les ténèbres du doute et de l'incompréhension. Sa religion, si belle, si riche, si cohérente avec la Bible, est tout à coup secouée dans ses fondations par un événement inouï, imprévisible, un vrai tremblement de terre intérieur. Et donc, dans le domaine spirituel, il va aussi avoir besoin d'être conduit par la main comme un enfant. En fait, cette cécité physique, c'est l'image de la cécité spirituelle dans laquelle il vivait déjà avant. Il croyait honorer Dieu, mais il luttait contre lui. Dans un récit des évangiles, en Jean chapitre 9, au verset 41, Jésus reproche à des pharisiens leur aveuglement. Il vient de guérir un aveugle de naissance, mais malgré cela, les pharisiens n'acceptent pas de reconnaître en lui le Messie. Et Jésus a, à leur égard, cette parole tranchante. « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que vous dites « nous voyons », vous restez dans vos péchés. » Ils disent « nous voyons », ils croient, ils sont dans l'illusion de voir, quoi. Jésus, la lumière du monde, dont on parle beaucoup à Noël, en l'illustrant de jolies bougies à la douce clarté, se révèle à Paul comme un éclair, une lumière aveuglante. Paul, qui croyait voir clair, a besoin de réaliser qu'il est un aveugle dans le domaine spirituel. Alors, l'histoire des 3 jours d'aveuglement, ça peut se rapprocher aussi des 3 jours que Jonas a passés dans le ventre du poisson. 3 jours de retour sur soi, d'interrogation, de prière, avant le retour à la lumière, après un changement en profondeur. Alors, un tout petit mot de témoignage. Toute proportion gardée, j'ai vécu un petit peu, hein, quand j'étais jeune dans ma vie, un séisme intérieur un petit peu comme ça, qui m'avait beaucoup déstabilisée. Moi, j'ai grandi dans une église baptiste, donc dans un milieu évangélique, en région parisienne, dans un milieu très, très déchristianisé. Donc, je n'avais pas d'autres chrétiens autour de moi quand j'allais à l'école et partout où j'allais, quoi. Il y avait quelques très rares catholiques pratiquants que je rencontrais, mais leur foi s'exprimait uniquement à travers un engagement social que je remarquais peu. Donc, j'étais convaincue qu'en dehors des évangéliques, il n'y avait pas de véritables chrétiens. Et lorsque je suis partie à Paris pour mes études à l'âge de 18 ans, j'ai été totalement stupéfaite d'être invitée à l'aumônerie catholique par une jeune fille rayonnante et de rencontrer dans cette aumônerie des jeunes issus de milieux totalement athées qui m'ont raconté leur conversion à Jésus-Christ dans l'Église catholique. Alors ça, ça a été un vrai tremblement de terre dans ma vision du monde. Plus tard, au cours de ma vie, j'ai été amenée à des engagements en commun avec des catholiques qui sont devenus pour moi de véritables frères et sœurs dans la foi. Et ça m'a amenée à davantage d'humilité, à reconnaître que l'Esprit de Dieu souffle où il veut, même là où je ne m'y attends pas, et que les étiquettes qu'on met sur les églises ou sur les gens ne sont pas une garantie quant au contenu. C'est un peu comme le vin. Revenons à Paul. Alors, Paul a fait l'objet d'une révélation tout à fait particulière de Jésus. Dieu l'a choisi pour une mission très spéciale et difficile. Il va devenir l'apôtre des païens. C'est lui qui va... Les païens, c'est les non-croyants, quoi, les non-juifs. Hein. C'est lui qui va propager la foi chrétienne dans des lieux reculés de l'Empire. Dieu l'avait de longue date préparé à cette mission sans qu'il le sache. Sa personnalité, si forte, si engagée, ses capacités de leader vont être décisives dans sa manière de mener à bien sa mission. Sa formation intellectuelle, sa grande culture, sa connaissance des langues vont lui permettre de s'adapter à toutes sortes de publics et de trouver comment annoncer l'Évangile de manière efficace dans des contextes très différents. Cette rencontre avec Jésus, si inattendue et brutale, vont amener donc chez lui ce retournement complet, une conversion radicale. Et d'ailleurs, à la fin de notre texte, au verset 20, nous le voyons déjà chercher à convaincre ses co-religionnaires que Jésus est le Fils de Dieu.
Ah, ça ne veut plus. Ça ne veut plus.
Ah oui, bah du coup, ouais. Du coup, on a sauté la mission de Paul, là, voilà. Alors maintenant, Ananias. Le récit continue au verset 10, du point de vue d'Ananias, donc celui que j'ai appelé le disciple lambda, hein. Lorsque Jésus lui apparaît et l'appelle, Ananias répond aussitôt « Je suis là, Seigneur ». Lui, il connaît la voix de Jésus. Il sait que c'est Jésus qui l'appelle. Il le sert avec fidélité. Il est prêt à écouter. Mais une fois qu'il a entendu ce que Jésus lui demande, là, c'est la peur qui le fait parler. Il explique au Seigneur que Saul est un homme dangereux. Sa réputation de chasseur de chrétiens l'a précédé à Damas. Ananias essaye de négocier avec Jésus, mais très rapidement, il va choisir la confiance plutôt que la peur naturelle qu'il a éprouvée en entendant le nom de Saul. Et Jésus lui dit « Lève-toi, va !» Comme il a dit à Saul « Lève-toi, entre dans la ville !» Donc, il va répondre présent à la mission que Dieu lui confie. Alors, je l'imagine, le cœur battant, remonter la rue droite, chercher la maison de Judas, demander Saul de Tarse. Ah, il est ici, d'accord. Donc, je n'ai pas rêvé, c'est réel. Bon. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, celui qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Et le miracle s'accomplit. Saul retrouve la vue et reçoit en même temps la lumière de Dieu, la foi en Christ. Il se fait aussitôt baptiser, probablement par Ananias, mais ce n'est pas précisé, et commence aussitôt à prêcher dans les synagogues. Jésus, la lumière du monde, dit à ses disciples en Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Ananias a été pour Saul cette lumière, déléguée par Jésus pour lui apporter la lumière de Christ. Voilà. Et après ça, exit Ananias. On n'en entend plus jamais parler. Il redevient un simple disciple, après ce qui aura été sûrement la plus grande aventure de sa vie. Alors Jésus, c'est comme le chef d'orchestre. Jésus appelle deux hommes très différents pour des missions différentes, mais complémentaires. Sans Ananias, pas d'apôtre Paul. C'est Jésus, le chef d'orchestre, qui choisit, qui équipe et qui envoie ses disciples dans la mission, qui donne à chacun sa partition. Il a préparé Paul pour une mission d'envergure internationale et il va lui montrer ce qu'il devra souffrir pour lui. Et il a préparé Ananias pour ouvrir au futur apôtre Paul le chemin de la foi en Jésus. Un simple disciple envoyé pour prier pour un futur géant de la foi. Jésus n'a pas appelé l'évêque, le pasteur ou je ne sais qui pour aller imposer les mains à Saul. Il a choisi Ananias. Ça fait un peu penser à la fable de La Fontaine, le lion et le rat, où un rat ronge le filet dans lequel le lion s'est fait prendre au piège. Une des morales de cette fable, c'est « on a souvent besoin d'un plus petit que soi ». Et nous aujourd'hui, qu'est-ce que ce texte a à nous apprendre ? Alors la première question que chacun peut se poser, c'est « est-ce que je connais Jésus ?» Parce qu'on peut être comme Saul. On peut croire en Dieu, chercher à lui plaire, faire ce qui est bien, respecter la loi morale, mais sans avoir jamais rencontré Jésus. Bon, je pense quand même qu'il n'y en a pas parmi nous qui veulent mettre les gens en prison, quoi. Mais voilà, on peut aimer Dieu de tout son cœur, mais on ne connaît pas Jésus. On ne lui a jamais fait la place dans nos cœurs. Et d'après la Bible, nous sommes alors des ennemis de Dieu, parce que nous méprisons son cadeau, la grâce qu'il nous a faite en nous envoyant Jésus qui a pris sur lui la punition de toutes nos fautes. Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » On ne peut pas se dire chrétien si on ne connaît pas Jésus. Croire en Dieu ne suffit pas. Alors si je connais Jésus, comme Ananias, la question que je me posais, c'est « est-ce que je suis à l'écoute, disponible ? Est-ce que dans mes journées bien occupées, il y a de la place pour m'arrêter, pour cultiver ma relation avec Jésus à travers la prière et la lecture de la Bible et l'écoute du Saint-Esprit ?» La troisième question, c'est « est-ce que j'ai conscience d'être la lumière du monde ?» C'est un peu drôle de se poser cette question. Moi, une lumière. Ma présence auprès d'autrui peut être une bénédiction. Peut-être que tu te vois comme quelqu'un de peu important, d'insignifiant, que tu te sens petit, incapable, peu qualifié. Mais si Jésus habite en toi, tu portes en ton être un trésor d'immense valeur pour les besoins de ceux qui t'entourent. Une simple présence peut faire parfois un bien immense à une personne qui se sent seule, dans la souffrance, dans le deuil. Est-ce que je suis prêt à être le délégué de Jésus auprès de ceux qui souffrent autour de moi ? Est-ce que je suis prêt à mettre mes dons, mes moyens au service de Dieu, au service des frères et sœurs dans l'Église et aussi de toutes les autres personnes autour de moi ? Et si un jour j'entends Jésus m'appeler et m'envoyer dans une mission très spéciale, très particulière, est-ce que je serai prêt, comme Ananias, à oser me lever et franchir le pas ? Ou eh bien est-ce que je dirais « parler de Jésus à mon voisin, mais c'est peine perdue, je sais déjà qu'il ne veut rien savoir, il pourrait même devenir agressif ». Jésus connaît les cœurs de chacun en profondeur. C'est lui le chef d'orchestre. Il voit bien plus loin que nous. Donc il peut nous utiliser pour des choses dont on n'a pas idée, que ça, l'impact que ça peut avoir dans la vie de quelqu'un d'autre. Conclusion. Bon, je ne veux pas m'avancer, mais je ne pense pas que quelqu'un parmi nous aura jamais un ministère comparable à celui de l'apôtre Paul. Nous pouvons plutôt nous identifier à Ananias, le simple disciple. Cette histoire nous montre que la simple obéissance d'un simple disciple peut produire une grande bénédiction. Jésus nous connaît chacun parfaitement. Il nous a dotés de capacités et de moyens différents pour nous confier à chacun des tâches différentes dans sa mission. Chacun, excusez-moi, chacun a sa propre partition à jouer. Nous avons tous la même valeur à ses yeux, que nous soyons en vue ou que nous servions dans l'ombre. Ce qu'il vise, c'est que nous apprenions à collaborer tous ensemble et avec lui, que chacun fasse sa part dans la complémentarité, comme les musiciens qui suivent le chef d'orchestre. Alors, ne restons pas spectateurs de l'œuvre de Dieu. Osons utiliser nos instruments, ne restons pas en silence. Jésus nous dit « Lève-toi, va ». Faisons-lui confiance pour oser nous mettre en mouvement pour lui et pour jouer notre petite partition dans la grande symphonie de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, je veux vraiment te bénir parce que chacun a tellement de valeur à tes yeux, que chaque vie peut être utile pour toi, que personne ne doit se dire qu'il est mis de côté, qu'il n'est pas vu par les autres et qu'il est sans importance. Toi, tu vois vraiment tout le monde, tu vois chaque cœur et tu veux que chacun trouve sa place auprès de toi et dans ton œuvre. Seigneur, tourne nos cœurs vers toi. Donne-nous vraiment le désir de te rencontrer si nous ne te connaissons pas encore et de te suivre fidèlement pour ceux qui te connaissent déjà. Sois vraiment le chef d'orchestre dans chacune de nos vies, Seigneur. Amen.